Mémoire vive.
Présenté par Christelle Le Polothèque
et préparé par Rachel Rimmer. Une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour, nous recevons aujourd'hui Thierry Vendamisch pour son film « Les enfants otages de Bergen-Belsen » qui sera présenté à Paris au Mémorial de la Shoah le 21 mars à 19h30. Votre documentaire traite d'un sujet que l'on connaît peu, ces femmes et ces enfants de prisonniers de guerre juifs français qui bénéficiaient à ce titre de la protection de la Convention de Genève. Si leur statut leur a permis d'échapper au camp de la mort, 167 de ces femmes, accompagnées de leurs enfants, ont été déportées au camp de Bergen-Belsen. Vous avez rencontré ces enfants qui ont été déportés, au camp de Bergen-Belsen, qui en sont revenus, et ils nous racontent ce qu'ils ont vécu dans ce camp, dans lequel ils étaient détenus, afin de servir d'otages pour d'éventuels échanges de prisonniers. En tant qu'otages, ils ont bénéficié d'un régime spécial, c'est-à-dire que les enfants n'ont pas été séparés de leur mère, par exemple, ce qui a, d'après leur récit, beaucoup contribué à leur survie dans ce camp. Les enfants de Bergen-Belsen se sont réunis dans une amicale et leur ancien président, Albert Biegelman, a beaucoup œuvré pour que ce film puisse se faire, Thierry Vendamisch.
Oui, ça c'est vrai, c'est Albert Biegelman avec Raymond Riquier et Sam Pantel, qui est secrétaire de l'amicale, qui sont venus à plusieurs reprises à CineTV pour proposer un sujet que Raymond Riquier a écrit en premier et qui pensait devait absolument être fait. Fabienne était absolument d'accord, je n'étais pas encore choisie comme réalisatrice. Mais elle avait l'attitude que tant qu'il y a encore un témoin vivant qui peut dire « moi je », il faut pousser à ce qu'il puisse s'exprimer. Et donc ça a mis beaucoup de temps avant que ça passe. Je crois qu'on a, Biegelman a travaillé pendant 3 ans avec Fabienne pour essayer qu'une émission se fasse. Et finalement, on a pu être en production et on a fini le film fin 2012.
Vous travaillez plutôt pour des films sur l'art, la culture. Qu'est-ce qui vous a amené à ce sujet précisément?
Mais à vrai dire, j'ai été télécommandée pour le faire. Je n'aurais pas moi-même choisi ce sujet pour plusieurs raisons. Que je peux dire que pour le moment, je suis très contente d'avoir été obligée de faire ce film parce que c'était un peu ma productrice Estelle Mauriac qui me connaissait, qui a dit « Ah, ce film-là, c'est pour Thierry », malgré le fait que j'ai... c'est vrai que je fais surtout des films sur l'art, mais j'avais dans les années précédentes fait plusieurs empreintes sur des femmes, Françoise Héritier, Julia Kristeva pour CineTV. Et elle connaissait un peu mon histoire personnelle. Elle a pensé que la conjonction femme de mon âge d'ailleurs, femme qui a à peu près le même âge d'ailleurs que les témoins eux-mêmes, et qui elle-même avait été très privilégiée, plus privilégiée encore que les enfants qui ne voulaient pas parler depuis très longtemps parce qu'ils sont revenus. Elle m'avait fait comprendre que j'avais une espèce de, pas devoir parce que je n'aime pas le mot devoir de mémoire, je n'aime pas ce concept, mais qu'elle pensait que peut-être qu'il était temps que moi-même je me penche à travers eux sur cette histoire.
Alors pour bien comprendre, j'aimerais que l'on revienne tout d'abord sur ce statut spécial qu'avaient les femmes de prisonniers de guerre, qui leur a permis pendant une grande partie donc de la guerre d'échapper à la déportation. Est-ce que c'est un statut qui concernait uniquement les familles françaises ou bien toutes les familles de prisonniers, puisque quelles que soient leurs origines, puisqu'on sait qu'il y avait de nombreux bataillons de juifs étrangers qui ont combattu pour la France?
Oui, c'était ça qui était intéressant, c'est qu'il y avait les juifs français, dont on avait... un seul témoin, qui est Francine Christophe, que selon les dires, et d'ailleurs il y a Anna dans le film qui le dit, elle ne savait même pas qu'elle était juive. C'est vrai qu'elle ne l'a pas dit dans le film, elle l'avait dit dans ses écrits. Francine a appris qu'elle était juive le jour où sa mère est venue lui expliquer qu'il fallait maintenant qu'elle porte cette jolie petite étoile brodée, doublée en soie. Elle faisait partie des Français-Françaises, même d'une grande famille de par la famille de son mari, qui avait fait la guerre de 14, qui avait des croix de guerre et qui ne, franchement, ne pensait jamais du tout à leur judéité. Et puis il y avait les autres, la plupart des autres qui sont dans le film, les autres, qui étaient pour la plupart des enfants et des épouses de juifs de l'Est, en grande partie polonais. Et pour certains, le fait de faire la guerre pour la France, c'était une façon de remercier la France de les avoir acceptés. Mmh. Pour d'autres, c'était peut-être un moyen d'avoir des papiers plus rapidement. On n'a pas traité de cela dans le film. Mais c'est certain qu'il y avait les Juifs français-français, qui parlaient bien le français, et il y avait les Juifs français fraîchement immigrés et qui, dont les mères parlaient pas tous très très bien le français, parlaient surtout le yiddish entre elles dans le camp, et c'était même une source de friction.
Dans un premier temps, cette protection de la Convention de Genève a été tout à fait respectée, c'est-à-dire que ces femmes et ces enfants prisonniers de guerre ont échappé à la déportation. Un de vos témoins raconte même qu'il a pu quitter le Veldiv parce que son père était prisonnier de guerre.
Oui, il n'aurait jamais dû être arrêté, d'ailleurs. C'était une erreur, parce qu'à ce moment-là, on croyait encore qu'ils étaient protégés, et ils l'étaient jusqu'en 1944. Et c'était une des grandes ironies pour moi que j'ai appris en faisant les recherches pour ce film. À 3 semaines de la libération de Paris, quelqu'un a découvert que, ah tiens, eux sont là aussi, qu'est-ce qu'ils font là? C'est des Juifs, pourquoi est-ce qu'ils sont là? On les déporte aussi, mais on ne pouvait pas les déporter sans leur mère, les enfants, et on ne pouvait pas non plus, on pouvait pas séparer les mères et les enfants, et on ne pouvait pas les envoyer à un camp d'extermination. Mais ça, c'est un premier choc pour moi, c'est qu'ils avaient attendu 3 semaines de plus, et ils n'auraient pas eu cette expérience.
Donc c'est en gros à partir de 1944, donc presque à la fin de la guerre, que ce statut ne suffit plus. Enfin, ne suffit plus. En même temps, vous allez nous expliquer un petit peu, ces femmes et ces enfants ont été déportés à Bergen-Belsen. C'est un véritable camp de concentration. Il y a des conditions épouvantables, la faim, le froid, le typhus, les commandants de travail. Qu'est-ce qui le différencie en fait d'autres camps de concentration?
Mais le fait qu'il n'y avait qu'un seul crématorium, qu'ils n'étaient pas vraiment destinés à l'extermination, mais à une mort lente. Vous savez, on ne pensait pas qu'ils allaient mourir, mais petit à petit, les conditions du camp se sont dégradées. Le camp s'est rempli énormément à cause des marches de la mort. Il y avait un surpeuplement tel que les nazis ne pouvaient plus... ne pouvaient plus subvenir aux besoins les plus banals, plus basiques de leurs prisonniers, de leurs détenus. Et donc, et c'est là aussi, je ne veux peut-être pas aller trop vite dans l'histoire, mais la deuxième chose qui m'a énormément frappée, dont je n'avais jamais entendu parler, et qui m'a beaucoup incitée de vouloir faire ce film après beaucoup de recherches, c'était le fait qu'ils étaient déportés à 3 semaines de la libération de Paris, cette histoire de convention de Genève, où c'est vrai qu'on ne se posait pas la question, on se dit, ah tiens, juif, donc exterminé, mais on ne s'était pas rendu compte qu'il y avait des juifs soldats que pendant 5 ans, en quelque sorte, avaient la planque, excusez-moi de le dire comme ça, mais par rapport
à ce qu'ils... guerre, en fait.
Pardon?
Ils étaient prisonniers de guerre.
Ils étaient prisonniers de guerre, ils ont été...
dans des conditions bien meilleures que...
Voilà, et ça c'était une des choses qu'on n'a pas finalement traitées dans le film, et qu'on aurait pu traiter. C'est la concurrence de qui a souffert le plus, mais c'est pour une autre histoire.
Vous utilisez dans votre film un dispositif d'image projetée pour faire réagir vos témoins. C'était pour vous un moyen de faire surgir des souvenirs plus facilement qu'avec la parole?
Mais je suis contente que vous souleviez ceci parce que je suis assez contente de la manière que ce dispositif a marché. Il y avait beaucoup de doutes pour certains que ça pouvait marcher avec des gens entre guillemets, vieux, qui n'aurait pas l'habitude d'être dans un studio noir avec les projections derrière eux, des projections devant, etc. Mais j'y tenais beaucoup pour deux raisons, même peut-être plus, mais je ne sais pas, j'ai dit deux, espérons que j'arrive à dire deux. Deux raisons. L'une, c'est que j'ai toujours été embêtée dans les films historiques de voir de la manière que les archives sont utilisées. D'habitude, on interviewe des gens et puis on coupe parce qu'évidemment, chaque personne est interviewée au moins une heure et il y a 9 personnes, donc il y a au moins 9 heures de transcription et c'est un casse-tête terrible de pouvoir couper. Et les photos, les images servent de bouche-trou. Et c'est très commode. Parfois, j'étais même obligée de le faire moi-même. Mais pour la plupart, je voulais le provoquer par l'image et que l'image ait un rôle central dans ce film. Parce que l'image de Bergen-Belsen, les images de Bergen-Belsen, celles les plus atroces de la Shoah, et celle qu'on a toujours pensé pendant très longtemps en France était à Auschwitz à cause du film de Nuit et brouillard de René, où il y avait un petit amalgame que Sybille Lindbergh explique très bien dans son livre où elle analyse entièrement Nuit et brouillard et qui m'a beaucoup servi, m'a beaucoup aidé à réfléchir sur la, comment dit-on, le statut de l'image pour la Shoah. Et comme vous avez bien dit, je fais d'habitude des films sur l'art et donc l'image compte beaucoup pour moi. La manière de la montrer, la manière qu'elle peut provoquer, évoquer. Parce que les témoins sont de deux sortes. Soit il y a des témoignages qui sont bétonnés dans un certain sens. Les gens qui ont tellement bien appris à raconter leur malheur, qu'on sent que c'est un discours qui était à maintes fois répété. Et pour moi, donc, il s'agissait de ne pas trop les laisser entrer dans ces rails-là, mais de pouvoir l'arrêter à chaque fois qu'il y avait une image qui était projetée et qui donc obligeait le témoin d'arrêter lui-même son discours et de passer à autre chose. Et puis, il y a ceux qui n'ont jamais parlé. Il y en a deux ou trois qui parlent pour la première fois et qui, eux, avaient peur de parler et qui étaient confortés, au contraire, par le fait qu'il y avait des images sur lesquelles ils pouvaient réagir. Oui. Et donc, c'était cela, en grande partie.
Parmi ces images projetées, la mort est extrêmement présente, notamment avec les charniers qui se sont multipliés après l'arrivée des rescapés des marches de la mort et une épidémie de typhus qui a décimé une grande partie de la population du camp. Comment ceux qui n'étaient encore que des enfants, face à cette omniprésence de la mort, comment s'en sont-ils protégés ?
Mais je ne sais pas s'ils se sont vraiment protégés. C'est-à-dire, ça dépend, je crois qu'ils étaient complètement conscients, ils ne pouvaient pas ne pas être, pouvaient pas se cacher de cela. D'ailleurs, ils le disent à l'image, qu'ils se sont devenus tellement habitués à voir des gens mourir autour d'eux, que l'un d'eux, Daniel, dit, ben, il était vivant, et puis tout d'un coup, il est tombé raide mort, et puis voilà, on a continué à jouer. C'était quand même des enfants, tous les soirs, ils rentraient, ils voyaient leur mère, ça c'était un réconfort. Je crois que ça les a marqués pour toute une vie. Certaines sont bien sorties, d'autres un petit peu moins, mais la plupart sont des gens qui ont réussi à construire une vie, comme beaucoup de rescapés d'ailleurs.
Vos témoins racontent aussi le désordre indescriptible qui règne à la fin de la guerre, juste avant la libération des camps, quand ils quittent Bergen-Belsen dans ces trains fantômes qui n'ont plus de destination réelle. Ils finissent après 13 jours de voyage par être abandonnés à leur propre sort, même les alliés ne savent pas quoi faire d'eux. C'était des choses que vous saviez auparavant, parce que ces récits-là sont particulièrement forts également.
Justement, c'est la deuxième raison pour laquelle je voulais absolument faire ce film, parce que pour moi, c'était quelque chose que je n'avais jamais entendu avant. Et ça me semblait être une spécificité, quelque chose de très particulier à ce groupe. Ils étaient beaucoup, hein. Il y avait 3 convois. À la fin, je crois qu'il y avait quelque chose comme 7000 personnes qui sont parties sur ces convois. Pas seulement nos enfants de Bergen-Belsen, mais comme toujours, la petite histoire reflète la plus grande histoire, et l'histoire collective est un reflet sur l'histoire individuelle. Et l'histoire individuelle, là, dans le film, est racontée par les témoins qui ont désiré faire partie de ce film. Et ça, c'était vraiment quelque chose d'absolument hallucinant. Et malheureusement, il y a très peu d'images. Vous avez peut-être vu dans le film, il n'y a que le convoi qui a été libéré par les Américains. Ces images se trouvent sur Internet, on a pu s'en servir. Mais autrement, c'est le métaphore des rails que dans le film me sert comme illustration, parce qu'il n'y en a pas. Et ça a été peut-être pour certains une expérience peut-être le plus terrible de toute leur expérience d'une année dans le camp. C'était ce voyage de 13 jours, 13 nuits, où finalement il n'y avait plus rien à manger, où quand le train s'arrêtait et qu'il fallait se débarrasser des morts sur le ballast, les enfants voyaient tout ça, ils aidaient même à porter les corps. Les mères couraient dans les champs en essayant de trouver quelques racines, quelques pissenlits. Certaines avaient très peur que les mères ne reviennent pas à temps, que le train pouvait se remettre en marche. Il y avait une vraie terreur qui n'était pas... il n'y avait pas de terreur dans le camp, parce que quelque part ils savaient qu'ils allaient s'en sortir, ils savaient qu'ils étaient des otages et qu'à la limite on n'allait pas les tuer, et que s'ils arrivaient à tenir, et comme vous avez bien dit au départ, s'ils ont tenu, c'est vraiment grâce à leur mère, chacun le dit à sa manière. Mais le témoignage du train fantôme, pour moi, est une des choses très fortes de cette expérience et aussi de ce film.
Le train fantôme, et puis l'abandon total. Soudainement, le train s'arrête et ils sont totalement livrés à eux-mêmes. Personne ne vient les aider. Combien de temps ça va durer jusqu'à ce qu'effectivement les alliés interviennent?
Mais je crois que les Russes... Le train s'est arrêté à Trebitz.
Dans un petit village, donc, qui était abandonné.
Petit village, c'était pas exactement dans le village. C'était un tout petit peu en dehors. Et certaines des mères sont parties pour voir ce qu'il y avait. Ils sont revenus en disant qu'il y avait des étranges personnages sur des chevaux. Enfin, c'est un peu... Je ne sais pas, parce que chacun raconte la manière qu'ils ont été libérés un petit peu différemment. Est-ce qu'on saura quelle est la vraie histoire? Je ne sais pas. Mais Maurice Silberstein... qui est un des témoins que, à chaque fois que je le revois, et vous savez que dans une salle de montage, on revoit à l'infini les mêmes scènes, et c'est là où on voit lesquelles marchent vraiment et lesquelles suscitent la vraie émotion, parce que ma monteuse, Michèle Hollander, que je veux saluer d'ailleurs, on se regardait à chaque fois que lui racontait l'histoire de Trebitz ou l'histoire de ses expériences dans le camp. Mais lui, il raconte qu'ils ont vu des drôles de soldats avec des pantalons bouffants et avec des chapeaux ronds, avec des chevaux, et qu'ils ont compris que c'était des Russes.
Sur ces 167 familles qui ont été déportées à Bergen-Belsen, combien ont survécu?
Je crois qu'il y avait que 4 mères qui ne sont pas revenues, et il y avait 2 enfants, si je ne me trompe pas. Oui, 2 ou 3 enfants. C'est pour ça qu'ils se sentaient très privilégiés et qu'il ne fallait pas parler, parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont revenus. Un des témoins, Léon Plasek, raconte le décès de sa mère. Il a appris d'une manière atroce quand il est sorti du coma de son propre quarantaine à Trebitz pour le typhus que sa mère était morte. Il a su plus tard qu'elle avait été jetée dans une fosse commune, et il peut encore aujourd'hui ne pas en parler sans grande émotion.
Il y a également un autre dispositif dans votre film là, qui montre bien la question de la transmission. C'est ces images de la jeune génération qui regardent comme une mise en abîme à leur tour le film que vous êtes en train de tourner.
Oui, et une deuxième mise en abîme parce que c'est tourné au Mémorial de la Shoah dans leur auditorium. Et c'est vrai que quelque part, je voulais que ce film est adressé au fait. À la génération qui n'a pas vraiment vécu tout cela, qui est peut-être fatiguée d'entendre les histoires de la Shoah, et que pour beaucoup ne savent pas que les images les plus atroces de Bergen-Belsen, ces images de bulldozer que j'ai montrées au début du film, derrière un rideau qui s'ouvre et qui se ferme, parce que ce sont des images, ce serait toute une grande discussion de savoir pourquoi j'ai fait cela et si j'avais raison de ne pas les montrer brutes. Mais en tout cas, ce sont des images atroces, violences, qui soulignent toute la violence du monde pour moi. Et je voulais aussi inscrire ce film. Vous avez bien vu ou lu qu'à la fin, il y a un hommage au cinéma. Alors, comment dire cela ? Ça commence avec un projecteur, on voit qu'on est dans une salle de cinéma. Est-ce que c'est du cinéma ? Il y a une interrogation là. Est-ce que beaucoup de négationnistes disent encore aujourd'hui que tout ça est une grande fiction ? Serge Dany dit que c'est à cause du cinéma que ces images sont restées gravées dans la mémoire à toujours, pour toujours. Il le dit mieux que moi, vous le lirez à la fin du film.
Je vous remercie Thierry Vendamiche. Je rappelle que votre film « Les enfants otages de Bergen-Belsen » qui a reçu le soutien de la Fondation pour la mémoire de la Shoah sera présenté à Paris au Mémorial de la Shoah le 21 mars prochain et qu'il sera diffusé fin avril sur France 5. C'était Mémoire Vive. Vous pouvez retrouver l'émission sur le web radio-rcj.info ou mémoirevive au pluriel.net.